Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Mythe ou Réalité
qui porte cette année sur le thème des voyages dans le temps. Alors ici nous allons aborder ce thème à travers le champ des neurosciences et nous allons tenter de répondre à la question qui est la suivante. Le cerveau peut-il prédire le mouvement ? Alors, la capacité à prédire l'avenir, ce qu'on appelle la précognition, c'est un thème très important de l'imaginaire collectif. Notre histoire est remplie de personnages qui ont été présumés comme étant capables de prédire l'avenir. Alors on peut citer dans la mythologie grecque Cassandre, la fille du roi de Troie, qu'Apollon avait dotée de la capacité de prédire l'avenir.
Mais, se refusant à lui, eh bien, il lui cracha dans la bouche, ce qui eut pour conséquence de la rendre incapable de convaincre quiconque de ses prédictions. Alors, on a beaucoup d'autres exemples, Nostradamus, le film Minority Report, Paul le Poulpe aussi, ce poulpe d'un zoo de Berlin qui eut la capacité de prédire un grand nombre de matchs, de résultats de matchs de la Coupe du Monde de football 2010. Et qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, faillit finir à la casserole lorsqu'il eut prédit la défaite de l'Allemagne en demi-finale contre l'Espagne.
Donc tous ces cas, il est bien entendu que scientifiquement, ils n'ont jamais été démontrés. Et ces cas, ils relèvent aujourd'hui de l'ordre du mythe, ou au mieux, ils relèvent de l'ordre de la coïncidence. Mais doit-on pour autant abandonner l'idée de voir un jour l'être humain prédire l'avenir ? Alors il est certain que certaines idées qui étaient encore chimériques il y a quelques siècles sont aujourd'hui bien réelles. Par exemple, si on avait dit à des personnes du Moyen-Âge qu'un jour l'homme irait marcher sur la Lune, je pense qu'ils nous auraient bien rionné. Eh bien, aujourd'hui, on va se demander ça, donc on va se demander est-ce que l'homme pourra un jour prédire le futur, mais sous un angle bien particulier. C'est l'angle du mouvement. Donc on va étudier la prédiction du mouvement. Alors, si on essaye de rattacher un peu ça à la fiction, la prédiction du mouvement, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on peut citer par exemple les mangas japonais, donc les shonen.
Ceux qui traitent de combat, notamment.
Pour ceux que je connais, hein, le plus connu, vous avez bien sûr Dragon Ball Z, qui a eu beaucoup d'écho en France, One Piece, qui est aujourd'hui le plus lu. Et dans ces mangas, donc les protagonistes, souvent, lorsqu'ils atteignent un certain niveau d'entraînement, un certain niveau de puissance, eh bien, ils deviennent capables de prédire les mouvements de leurs adversaires. Alors, nous, ce qu'on va essayer de se demander, c'est, ok, est-ce que ça, c'est possible ? Alors, cette question, au premier abord, elle peut sembler tout à fait incongrue. Eh bien, quand on connaît un peu certains concepts des neurosciences concernant la prédiction du mouvement, bah, cette question, elle devient pas si bête que ça, au final. Parce que les recherches qui ont été menées ces 30 dernières années, on va dire, dans le domaine des neurosciences comportementales, eh bien, elles montrent que le cerveau il possède vraiment, je dirais, d'étonnantes capacités en ce qui concerne la prédiction du mouvement. Alors, je vais commencer par un petit récapitulatif, sur ce qu'est le cerveau. Le cerveau, historiquement, il est principalement considéré comme étant le siège de la pensée et des émotions. Mais ce qui est assez méconnu, c'est qu'il est aussi, et j'ai envie de dire surtout, le centre de contrôle de nos perceptions et du mouvement. Alors aujourd'hui, il y a même certains neuroscientifiques comme Daniel Wolpert, qui est un scientifique anglais, qui pense que la raison principale de l'existence du système nerveux chez l'être humain et même de façon plus globale chez les êtres vivants, c'est la nécessité de se mouvoir. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo sur un TED Talk, comme on dit, sur YouTube de Daniel Wolpert qui s'appelle Why Do We Have a Brain, qui est très intéressant, je vous le conseille.
Alors quand j'ai évoqué le contrôle des mouvements tout à l'heure, j'y ai intuitivement associé le terme de perception. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi très important, qui est même fondamental, je dirais. C'est que nos mouvements, eh bien, ils sont indissociables de l'environnement dans lequel ils sont réalisés. C'est-à-dire que
la production et le contrôle des mouvements sont grandement dépendants des processus perceptifs. Les processus perceptifs, eh bien, ce sont les informations sensorielles auxquelles a accès notre cerveau. Qui proviennent des différents sens, la vision, l'olfaction, l'audition, le goût, le toucher. On peut aussi citer un qui n'est pas très connu, c'est la proprioception, c'est-à-dire le sens de la position, le fait de savoir où est situé mon corps dans l'espace sans le regarder. Et donc ces processus perceptifs, j'ai dit qu'ils étaient indissociables de la production du mouvement, parce que même un mouvement aussi simple que de saisir un objet, eh ben, il nécessite des processus perceptifs. Même pour attraper un objet devant moi, eh ben, je dois, par la vision, localiser où est le dit objet. Sans cette localisation, la saisie est impossible. Donc le cerveau, en permanence, il reçoit, il analyse et il combine sans cesse les informations qui proviennent de nos différents systèmes sensoriels, et ceci afin d'établir la cartographie qui soit la plus précise possible de notre environnement et grâce à cela, de produire un comportement moteur qui est adapté à l'environnement. Ça, c'est très important. Le comportement moteur ne sera pas pareil sur Terre, dans l'eau ou sur la Lune, par exemple. Et ceci étant dit, quand on parle de ces processus perceptifs, il existe un problème qui est fondamental pour le cerveau, c'est ce qu'on appelle les délais. Alors, je m'explique. Les informations sensorielles, elles sont captées par ce qu'on appelle les récepteurs primaires. Donc, pour la vision, c'est la rétine. Pour la proprioception, c'est les mécanorécepteurs qui existent dans les muscles et dans les tendons. Et donc, quand un phénomène survient, il est capté par ces récepteurs primaires et il est envoyé via les différents nerfs sensoriels au cerveau, où ces informations sont intégrées. Autrement dit, le cerveau prend connaissance des informations. Eh bien, le problème des délais, c'est qu'il y a un délai, pour ainsi dire, une latence qui peut être négligeable à l'échelle humaine, elle se compte en millisecondes, mais qui n'est pas si négligeable que ça, entre la survenue d'un phénomène et le moment où le cerveau en prend connaissance. Et ça a quand même une relative importance. Alors, on peut l'illustrer avec l'exemple suivant. Imaginons devoir attraper une balle qui chute à la vitesse de 10 mètres par seconde. Donc, on regarde la balle à un instant T pour connaître sa position. À cet instant T, elle est à 3 mètres du sol. Eh bien, le temps que cette position soit intégrée au niveau cérébral, c'est-à-dire le temps que le cerveau prenne connaissance de cette position, donc ce temps équivaut environ à 50 millisecondes, eh bien, la balle a parcouru 50 cm. Du coup, si on porte notre main au niveau de cette position connue, eh bien, ce mouvement se solderait par un échec, parce que la balle aurait parcouru 50 cm. Donc, ce qui est important de comprendre là-dessus, c'est que notre cerveau traite en permanence des informations sensorielles qui appartiennent au passé. Alors, c'est malheureux à dire, mais dans tous les cas, nous vivons dans le passé. Donc, la production du mouvement, dans le cas particulier, attraper la balle, est impossible en servant seulement des informations sensorielles. Et donc, si le cerveau a toujours un temps de retard sur ce qui se passe, eh bien, comment est-ce qu'il fait ? Alors, l'évolution, qui est très bien faite, lui a permis de développer une solution. C'est là que vont intervenir les prédictions du mouvement. Alors, comment c'est possible, ces prédictions ? Eh bien, c'est possible grâce à ce qu'on appelle des modèles internes. Les modèles internes, ce sont des réseaux de neurones qui constituent un ensemble des connaissances implicites des caractéristiques du corps, du monde extérieur et de leurs interactions. Autrement dit, c'est des réseaux de neurones qui vont agir comme des simulateurs et qui vont connaître très bien le comportement du corps et des objets qui l'entourent et des forces qui agissent sur ces objets. Alors dans le cas présent, dans le cas de la balle, eh bien le modèle interne, il connaît très bien l'action qu'a la gravité sur la balle et grâce à ça, à partir de cette loi, eh bien il va pouvoir prédire quelle va être la trajectoire de la balle en chute libre. Alors c'est une étude, c'est quelque chose qui est très connu, ça a été montré à la fin des années 80 par des chercheurs italiens qui s'appellent Laquaniti et Maioli. Et donc ils ont étudié cet exemple d'attraper une balle en chute libre. Ils lâchaient la balle de différentes hauteurs et ils analysaient l'activité électromyographique, donc l'activité des muscles du bras, l'activité électrique des muscles du bras. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que quelle que soit la hauteur d'où la balle était lâchée, les muscles du bras s'activaient juste avant que la balle n'entre en contact avec la main. C'est ce qu'on appelle une activité musculaire anticipée. Et ça, c'est bien la preuve que le cerveau, que les modèles internes à l'intérieur du cerveau, ont réussi à prédire la trajectoire de la balle, le moment où elle allait entrer en contact avec la main, et du coup, le cerveau a activé les muscles juste avant pour attraper la balle. Alors, ce champ de recherche qui concerne la prédiction des mouvements a été largement approfondi depuis. Et maintenant, il est très bien connu que le cerveau est capable de prédire de manière très précise de nombreuses trajectoires. Et on va même voir que la prédiction des mouvements, ça va encore plus loin pour le cerveau. Le cerveau, il en fait en permanence, et ces prédictions de mouvements, elles sont indispensables pour nos mouvements de tous les jours. Alors, elles sont importantes pour deux choses. La préparation, ce qu'on appelle, nous, la planification des mouvements, et le contrôle. Alors déjà, je parlais de la préparation. Donc, petit prérequis pour ça, je rappelle que d'un point de vue physiologique, la base du mouvement, c'est ce qu'on appelle la commande motrice. La commande motrice, c'est un signal électrique qui est émis au niveau du cortex moteur primaire, qui parcourt la moelle épinière pour aller activer des neurones spécifiques qu'on appelle des motoneurones. Et c'est l'activation de ces motoneurones qui va provoquer la contraction musculaire et donc le mouvement. Le mouvement, il peut être mesuré de deux manières, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière électromyographique, donc l'analyse de l'activité électrique du muscle, mais aussi de manière cinématique, donc c'est l'analyse des déplacements du corps dans l'espace. Et donc, le mouvement, ce mouvement qui est observable, il constitue que la face cachée d'un immense iceberg, en fait. En amont, au niveau cérébral, avant chaque mouvement, il existe une importante activité des zones, ce qu'on appelle les zones motrices, qui servent à préparer la commande motrice, à choisir la commande motrice. Alors pourquoi c'est un problème de choisir, pourquoi il y a besoin d'une activité pour choisir la commande motrice? On pourrait très bien se dire, ok, le cerveau il connaît beaucoup de mouvements, on en fait tous les jours, si on a besoin d'attraper un objet devant nous, il va choisir la commande motrice qui sert à attraper cet objet, de toute façon on l'a déjà fait, elles sont toutes stockées quelque part, il prend celle qui va bien dans le cas présent, il l'implémente et le mouvement est créé. Eh bien c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que même pour une tâche aussi simple qu'attraper un objet sur la table, eh bien il existe une infinité de solutions possibles. Si on veut attraper un objet, on a une infinité, déjà, on a, dans un premier temps, une infinité de trajectoires, c'est-à-dire qu'on peut avoir une trajectoire plus ou moins courbe, mettre en jeu plus ou moins d'articulations, on peut même se lever pour attraper l'objet, même si ça ne sert pas à grand-chose. Et on a aussi une infinité de vitesses possibles, c'est-à-dire qu'on peut faire un mouvement très long, un mouvement très rapide, et puis toutes les vitesses intermédiaires, toutes les vitesses entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la redondance, d'ailleurs. Et ça, ça a pour effet que le cerveau ne peut pas stocker toute cette infinité de commandes. Donc à chaque fois, il est obligé de trouver la bonne commande motrice qui permettra de réussir le mouvement désiré. Et là encore, il va faire appel au modèle interne, c'est-à-dire aux prédictions, pour trouver la bonne commande motrice. On a un modèle interne qui, à partir de la connaissance de l'état du corps et de ses connaissances de l'environnement, va prédire quelle commande motrice permettra de réussir le mouvement. Alors ça, vous pouvez très bien vous en rendre compte, on peut très bien s'en rendre compte, lors de certains mouvements, par exemple. Il nous est déjà tous arrivé de vouloir boire dans une bouteille de lait qui était posée sur la table. On croit que la bouteille est pleine, on fait un mouvement, et en fait la bouteille est vide et on fait un mouvement entre guillemets avec trop de force. Alors ce phénomène-là, il est dû aux prédictions qui ont été faites pour générer la commande motrice. Si on croyait que la bouteille était pleine, le cerveau a prédit qu'il fallait un niveau de force suffisant pour porter la bouteille pleine à ses lèvres. Et étant donné qu'une bouteille vide pèse moins lourd qu'une bouteille pleine, le niveau de force est trop important. Et la bouteille va trop haut et elle n'atteint pas les lèvres. Et donc voilà, cette commande motrice qui est trouvée par prédiction, son deuxième problème, là je parlais plutôt du contrôle du mouvement, ça c'était là vraiment la préparation du mouvement. Donc cette commande motrice, elle n'est pas toujours parfaite. Le cerveau est un système biologique et comme tous les systèmes biologiques, il y a ce qu'on appelle beaucoup de variabilité. Si nous pouvions réaliser parfaitement tous les mouvements dont nous avions envie, ça se saurait. Et ce n'est pas le cas. Donc, comme cette commande motrice n'est pas parfaite, le cerveau il doit identifier et réguler les erreurs qui s'y trouvent, afin d'y apporter les corrections nécessaires et réussir le mouvement. C'est de là qu'on parle de contrôle de mouvement. Et donc, l'identification de ces erreurs, elle peut être réalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce aux signaux sensoriels. Hop, on veut pointer une cible, grâce à notre vision, on voit si notre bras dévie ou pas de la trajectoire par rapport à la cible. Le problème, encore une fois, ce sont les délais. Quand on fait des mouvements rapides, le temps que l'information que le bras n'est pas sur, que le doigt ne prend pas la bonne trajectoire, le temps que cette information arrive au cerveau, souvent le bras a déjà atteint la cible et en l'occurrence il ne l'atteint pas puisque la trajectoire n'était pas bonne. Là encore une fois le cerveau va faire appel aux prédictions. Comment ? Lorsque la commande motrice est générée, il y a une copie de cette commande motrice, ce qu'on appelle la copie d'efférence, qui va être stockée quelque part dans le cerveau. Et cette copie, elle va être utilisée par un modèle interne afin de prédire les conséquences de la commande motrice, donc entre guillemets, de prédire le mouvement qui va être réalisé. Et ça, c'est important puisque le fait d'avoir accès à ces prédictions avant la génération du mouvement, ça permet de contrecarrer, entre guillemets, le problème des délais. C'est-à-dire que s'il y a une erreur dans la commande, grâce à ces prédictions, on peut s'en rendre compte
avant de s'en apercevoir grâce aux informations sensorielles. Bon, ça a été grandement étudié aussi. Hein. Pour donner un exemple d'une étude, je vais reprendre mon exemple de pointage. Donc on demande aux participants de pointer une cible, c'est un paradigme qui est très utilisé dans le domaine des sciences du mouvement. Et on peut se rendre compte que lorsqu'il y a une déviation dès le début du mouvement, donc une erreur dans la commande motrice, le cerveau est capable de corriger cette déviation avant même que les informations sensorielles ne soient disponibles. Donc voilà pour faire un premier bref résumé, le cerveau il est capable de prédire ses propres mouvements. D'ailleurs c'est très utile, c'est indispensable même j'ai envie de dire au contrôle des mouvements. Et il est aussi capable de prédire certaines trajectoires, certains mouvements extérieurs au corps. Alors la question qui émerge de ça, et que beaucoup d'entre vous se posent à mon avis, c'est « Ok, on a des modèles internes, des réseaux de neurones dans notre cerveau, qui sont capables de prédire nos mouvements, de prédire nos mouvements extérieurs, etc. Mais comment est-ce qu'ils fonctionnent ces modèles ? Qu'est-ce qui leur donne la capacité de prédire l'avenir ?» La réponse, elle est assez jolie, dite comme ça, c'est que leur capacité à prédire l'avenir leur vient de la connaissance des expériences passées. Ça vous rappelle sans doute la phrase célèbre de Nicolas Machiavel, « Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir ». Donc ces réseaux de neurones, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont plastiques, on dit. Ils s'actualisent, ils se renforcent, ils se renouvellent sans cesse à chaque nouvelle expérience. Chaque nouveau mouvement les réactualise. Et c'est à partir de toutes ces expériences Eh bien, qu'ils en déduisent des lois qui peuvent être réappliquées et qui peuvent être adaptées à chaque nouvelle situation. Et en fait, ils agissent comme de véritables des simulateurs. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils simulent les actions, les mouvements, nos propres mouvements, les mouvements extérieurs, de manière quasiment parfaite. Et si on simulait quelque chose de manière quasi parfaite, ça équivaut à la prédire. Alors, cette faculté d'intégration par l'expérience, d'apprentissage, j'ai envie de dire, d'apprentissage de la prédiction, elle est facilement observable lorsqu'on étudie l'apprentissage d'un nouveau mouvement, par exemple quand on apprend à servir d'un outil ou l'adaptation à un nouvel environnement. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'outil, au fur et à mesure des essais, on va apprendre à mieux servir de l'outil. Pourquoi? Parce que le modèle interne vont améliorer leur connaissance des propriétés dynamiques de l'outil et apprendre à prédire quels sont les mouvements qu'on va faire avec. En soi, ils améliorent leur capacité de prédiction. Donc l'adaptation à l'environnement, je peux en parler un petit peu aussi, puisque c'est quelque chose qui a pas mal été étudié, encore une fois, dans le domaine des sciences du mouvement. Il y a par exemple l'exemple de l'adaptation à un champ de force. Donc c'est une étude de 94 de Chadmer et Monsieur Ivaldi, et les auteurs, dans lequel les participants ont donc manipulé un bras robotique avec pour but de pointer une cible qui était devant eux. Quelque chose de très simple. Donc ils faisaient plusieurs essais, pointaient la cible, et au bout de ces essais, les expérimentateurs ont introduit un champ de force. Donc après ça, une fois qu'ils voulaient pointer la cible, et ben il y a une force qui les déviait et ça fait qu'ils pointaient à droite de la cible. Ils faisaient une erreur. Et ce dont les expérimentateurs se sont aperçus, c'est qu'au fil des essais, l'erreur par rapport à la suite s'est réduite jusqu'à disparaître. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au fil des essais, le modèle interne a appris à prédire qu'il y avait une perturbation. Dans les premiers pointages, quand il y avait des erreurs, eh bien, il simulait le mouvement avec des conditions environnementales qui étaient inexactes. Il le simulait sans perturbation. Et au fur et à mesure, il a appris à prédire qu'il y aurait une perturbation, ce qui lui a permis à la fin de prédire correctement la perturbation et donc de réussir le mouvement. Alors pour finir, on peut se demander jusqu'où le cerveau est capable de prédire le mouvement. Est-ce qu'on est seulement en mesure de prédire nos propres mouvements et certaines trajectoires, ou est-ce que ça peut aller plus loin? Et ben déjà, il faut savoir que cette capacité, elle peut être très développée chez les humains. On pense par exemple aux sportifs de haut niveau. Alors moi, ça m'impressionne toujours, quand on regarde des sportifs de haut niveau, on a l'impression qu'ils ont toujours un temps d'avance sur ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, il a été montré que les joueurs de tennis, dès les premiers instants où l'adversaire frappe la balle, ils sont capables de prédire très précisément quel va être le point d'impact de la balle. Alors chez les sportifs de haut niveau, c'est plutôt normal. Comme ils bénéficient d'un grand nombre d'entraînements, leur cerveau a accès à une grande quantité d'expériences passées, ce qui permet à leur modèle interne de fonctionner comme des parfaits simulateurs. Ils excellent dans la prédiction. Alors pourrait-on aller plus loin? Pourrait-on imaginer un jour quelqu'un comme Sengoku dans Dragon Ball anticiper les mouvements de son adversaire? Eh bien, c'est un peu plus compliqué. Parce que les trajectoires et nos propres mouvements, ils sont entre guillemets faciles à prédire pour le cerveau puisqu'il connaît les lois qui les régissent. Par exemple, pour les trajectoires, eh bien, il connaît l'action de la gravité et grâce à ça, c'est super facile de prédire une trajectoire. Nous-mêmes, avec les équations horaires dérivées des lois de Newton, eh bien, on est capable de prédire la trajectoire d'une balle qui tombe. Bon, avec beaucoup plus de temps, certes, mais on en serait aussi capable. En combat, ça relève ce qui est à prédire relève d'une prise de décision. C'est difficile de prédire si l'adversaire va me mettre un coup de poing, si l'adversaire va me mettre un coup de pied, etc., etc. Et bien là encore, même si le cerveau n'est pas capable de prédire à coup sûr les mouvements d'un adversaire, il peut les anticiper plus ou moins bien correctement grâce encore aux expériences passées. Il va utiliser en fait, grâce aux expériences passées, il va déduire une probabilité que dans telle ou telle situation, l'adversaire passe un tel mouvement. Alors je m'explique. Donc si je reprends l'exemple du tennis, imaginons que à chaque fois que je mets une balle longue sur le revers de mon adversaire, il me fasse un amorti, dans 95% des cas. Eh bien, à la prochaine balle longue que je ferai sur son revers, on va directement anticiper, courir vers l'avant pour anticiper l'amorti, parce que le cerveau sait que dans cette situation-là précise, eh bien, il y a une très grande probabilité que l'adversaire fasse un amorti. Donc en résumé, le cerveau, il infère des probabilités à partir de nos expériences passées. Et c'est pour ça qu'il possède de fortes capacités d'anticipation, même si ce n'est pas certain à chaque fois. Voilà, donc pour conclure, on a vu que le cerveau était capable de prédire le mouvement, en particulier les trajectoires pour lesquelles il excelle, j'ai envie de dire, et qu'il effectue aussi constamment des prédictions par rapport à nos propres mouvements. Et d'ailleurs, ça c'est indispensable à nos mouvements de tous les jours. Sans ça, on ne pourrait pas se mouvoir, de manière efficiente en tout cas. Donc on essayait de se demander, jusqu'à quel point le cerveau peut prédire le mouvement, et ben ça marche très bien, comme je l'ai dit, pour des mouvements qui sont prédéfinis, qui sont régis par des lois, mais dès que ça implique de la prise de décision, c'est plus possible. Même s'il utilise certaines techniques, faisant appel aux probabilités pour essayer d'anticiper correctement les prises de décision adverses, il ne pourra jamais le faire de manière certaine, en tout cas pour l'instant. Et donc anticiper les mouvements de son adversaire lors d'un combat, pour l'instant, ça reste du lore du mythe. Et je ne parle même pas des Cassandres, Nostradamus et autres Paul le Poulpe, qui resteront dans le meilleur des cas des coïncidences. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.